Enfin, on ne saurait trop encourager l'existence de milieux d'idées ne constituant pas des rouages de la vie publique. Car, à cette seule condition, ils ne sont pas des cadavres. C'est le cas des syndicats, s'ils ne sont pas chargés de responsabilités quotidiennes dans l'organisation économique. C'est le cas des milieux chrétiens, protestants ou catholiques, et plus particulièrement d'organisations comme la JOC. Mais un État qui succomberait le moins du monde à des velléités cléricales les tuerait à coup sûr. C'est le cas de collectivités surgies après la défaite, les unes officiellement, chantiers de jeunesse, compagnons, les autres clandestinement, à savoir les groupes de résistance. Les unes ont un peu de vie, malgré leur caractère officiel, par un concours exceptionnel de circonstances. Mais si on leur conservait ce caractère, elles mourraient. Les autres sont nés de la lutte contre l'État. Et si on succombait à la tentation de leur donner une existence officielle dans la vie publique, cela les ravagerait moralement à un degré terrible. D'un autre côté, si des milieux de cette espèce sont à l'écart de la vie publique, ils cessent d'exister. Il faut donc qu'ils n'en fassent pas partie et ne soient pas non plus à l'écart. Un procédé à cet effet pourrait être, par exemple, que l'État désigne fréquemment des hommes choisis dans ces milieux pour des missions spéciales, à titre temporaire. Mais il faudrait, d'une part, que l'État même fasse le choix des personnes, d'autre part, que tous leurs camarades y trouvent un motif de fierté. Une telle méthode pourrait passer à l'état d'institution. Là encore, il faut, tout en essayant d'empêcher les haines, encourager les différences. Jamais le bouillonnement des idées ne peut faire du mal à un pays comme le nôtre. C'est l'inertie mentale qui est mortelle pour lui. Le devoir qui incombe à l'État d'assurer au peuple quelque chose qui soit réellement une patrie ne saurait être une condition pour l'obligation militaire qui incombe à la population en cas de péril national. Car si l'État manque à sa charge, si la patrie dépérit, néanmoins, tant que l'indépendance nationale subsiste, il y a espoir de résurrection. Si on regarde de près, on constate dans le passé de tous les pays, à des dates parfois rapprochées, des abaissements et des relèvements très surprenants. Mais si le pays est subjugué par des armes étrangères, il n'y a plus rien à espérer, sauf le cas de libération rapide. L'espérance seule, quand même il n'y aurait rien d'autre, vaut la peine qu'on meure pour la préserver. Ainsi, bien que la patrie soit un fait, et comme telle soumise à des conditions extérieures, à des hasards, l'obligation de la secourir en cas de danger mortel n'en est pas moins inconditionnée. Mais il est évident qu'en fait, la population sera d'autant plus ardente que la réalité de la patrie lui aura été rendue plus sensible. La notion de patrie ainsi définie est incompatible avec la conception actuelle de l'histoire du pays, avec la conception actuelle de la grandeur nationale, et par-dessus tout avec la manière dont on parle actuellement de l'Empire. La France a un empire, et par suite, quelle que soit la position de principe adoptée, il en découle des problèmes de fait, qui sont très complexes et très différents selon les localités. Mais il ne faut pas tout mélanger. Il se pose d'abord une question de principe, et même quelque chose de moins précis encore, une question de sentiment. Dans l'ensemble, un Français a-t-il lieu d'être heureux que la France ait un empire et d'y penser, d'en parler avec joie, avec fierté et sur le ton d'un propriétaire légitime? Oui, si ce Français est patriote à la manière de Richelieu, de Louis XIV ou de Maurras. Non, si l'inspiration chrétienne, si la pensée de 1789 sont indissolublement mélangées à la substance même de son patriotisme. Toute autre nation avait à la rigueur le droit de se tailler un empire, mais non pas la France. Pour la même raison qui a fait de la souveraineté temporelle du pape un scandale aux yeux de la chrétienté. Quand on assume, comme a fait la France en 1789, la fonction de penser pour l'univers, de définir pour lui la justice, on ne devient pas propriétaire de chair humaine. Même s'il est vrai qu'à défaut de nous, d'autres se seraient emparés de ces malheureux et les auraient traités plus mal encore. Ce n'était pas un motif légitime. Tout compte fait, le mal total aurait été moindre. Les motifs de ce genre sont la plupart du temps mauvais. Un prêtre ne devient pas patron d'une maison close dans la pensée qu'un marlou traiterait ses femmes plus mal. La France n'avait pas à manquer au respect d'elle-même par compassion, et d'ailleurs elle ne l'a pas fait. Personne n'oserait soutenir sérieusement qu'elle est allée conquérir ses populations pour empêcher que d'autres nations ne les maltraitent. D'autant plus que, dans une large mesure, c'est elle-même, au XIXe siècle, qui a pris l'initiative de remettre à la mode les aventures coloniales. Parmi ceux qu'elle a soumis, certains sentent très vivement combien il est scandaleux que ce soit elle qui ait fait cela. Leur rancune contre nous en est aggravée par une espèce d'amertume terriblement douloureuse et par une sorte de stupéfaction. Il est possible qu'aujourd'hui, la France ait à choisir entre l'attachement à son empire et le besoin d'avoir de nouveau une âme. Plus généralement, elle doit choisir entre une âme et la conception romaine, cornélienne, de la grandeur. Si elle choisit mal, si nous-mêmes la poussons à choisir mal, ce qui n'est que trop probable, elle n'aura ni l'un ni l'autre, mais seulement le plus affreux malheur, qu'elle subira avec étonnement sans que personne puisse en discerner la cause. Et tous ceux qui sont en état de parler, de tenir une plume, auront éternellement la responsabilité d'un crime. Bernanos a compris, et dit que l'hitlérisme, c'est la Rome païenne qui revient. Mais a-t-il oublié ? Avons-nous oublié quelle part a eu son influence dans notre histoire, dans notre culture et aujourd'hui encore dans nos pensées? Si nous avons pris, par horreur d'une certaine forme du mal, la détermination terrible de faire la guerre avec toutes les atrocités qu'elle implique, pouvons-nous être excusés si nous faisons une guerre moins impitoyable à cette même forme du mal dans notre propre âme? Si la grandeur de l'espèce cornélienne nous séduit par le prestige de l'héroïsme, l'Allemagne peut bien nous séduire aussi, car les soldats allemands sont certainement des héros. Dans la confusion actuelle des pensées et des sentiments autour de l'idée de patrie, avons-nous aucune garantie que le sacrifice d'un soldat français en Afrique est plus pur par l'inspiration que celui d'un soldat allemand en Russie? Actuellement, nous n'en avons pas. Si nous ne sentons pas quelle terrible responsabilité il en résulte, nous ne pouvons pas être innocents au milieu de ce déchaînement de crimes à travers le monde. S'il y a un point sur lequel il faille tout mépriser et tout braver par amour de la vérité, c'est celui-là. Nous sommes tous rassemblés au nom de la patrie. Que sommes-nous? Quel mépris ne mériterons-nous pas si, dans la pensée de la patrie, se trouve mêlée la moindre trace de mensonge? Mais si les sentiments du genre cornélien n'animent pas notre patriotisme, on peut demander quel mobile les remplacera. Il y en a un, non moins énergique, absolument pur, et répondant complètement aux circonstances actuelles. C'est la compassion pour la patrie. Il a un répondant glorieux. Jeanne d'Arc disait qu'elle avait pitié du royaume de France. Mais on peut alléguer une autorité infiniment plus haute. Dans l'Évangile, on ne peut pas trouver de marque que le Christ ait éprouvé à l'égard de Jérusalem et de la Judée rien qui ressemble à de l'amour, sinon seulement l'amour enfermé dans la compassion. Il n'a jamais témoigné à son pays aucun attachement d'une autre espèce. Mais la compassion, il l'a exprimée plus d'une fois. Il a pleuré sur la ville, en prévoyant, comme il était facile de le faire à cette époque, la destruction qui s'abattrait prochainement sur elle. Il lui a parlé comme à une personne. « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu !» Même portant sa croix, il lui a encore témoigné sa pitié. Qu'on ne pense pas que la compassion pour la patrie n'enferme pas d'énergie guerrière. Elle a animé les Carthaginois à un des exploits les plus prodigieux de l'histoire. Vaincus et réduits à peu de choses par Scipion l'Africain, ils subirent ensuite, pendant 50 ans, un processus de démoralisation auprès duquel la capitulation de la France à Munich est peu de chose. Ils furent exposés sans aucun recours à toutes les injures des Numides, et ayant renoncé par traité à la liberté de faire la guerre, ils imploraient vainement de Rome la permission de se défendre. Quand ils le firent enfin sans autorisation, leur armée fut exterminée. Il fallut alors implorer le pardon des Romains. Ils consentirent à livrer 300 enfants nobles et toutes leurs armes. Puis leurs délégués reçurent l'ordre d'évacuer entièrement et définitivement la ville, afin qu'elle pût être rasée. Ils éclatèrent en cris d'indignation, puis en larmes. Ils appelaient leur patrie par son nom et, lui parlant comme à une personne, ils lui disaient les choses les plus déchirantes. Puis ils supplièrent les Romains, s'ils voulaient leur faire du mal, d'épargner cette cité, ses pierres, ses monuments, ses temples, à qui on ne pouvait rien reprocher, et d'exterminer plutôt la population tout entière. Ils dirent que ce parti serait moins honteux pour les Romains et bien préférable pour le peuple de Carthage. Les Romains, restant inflexibles, la ville se souleva, bien que sans ressources, et Scipion l'Africain, à la tête d'une armée nombreuse, mit 3 années entières pour s'en emparer et la détruire. Ce sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable est autrement chaleureux que celui de la grandeur nationale. L'énergie dont il est chargé est parfaitement pure. Elle est très intense. Un homme n'est-il pas facilement capable d'héroïsme pour protéger ses enfants ou ses vieux parents, auxquels ne s'attache pourtant aucun prestige de grandeur? Un amour parfaitement pur de la patrie a une affinité avec les sentiments qu'inspire à un homme ses jeunes enfants, ses vieux parents, une femme aimée. La pensée de la faiblesse peut enflammer l'amour comme celle de la force, mais c'est d'une flamme bien autrement pure. La compassion pour la fragilité est toujours liée à l'amour pour la véritable beauté. Parce que nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d'une existence éternelle et ne le sont pas. On peut aimer la France pour la gloire qui semble lui assurer une existence étendue au loin dans le temps et l'espace. Ou bien on peut l'aimer comme une chose qui, étant terrestre, peut être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible. Ce sont deux amours distincts, peut-être, probablement, incompatibles, quoique le langage les mélange. Ceux dont le cœur est fait pour éprouver le second peuvent, par la force de l'habitude, employer le langage qui ne convient qu'au premier. le second seul est légitime pour un chrétien, car seul il a la couleur de l'humilité chrétienne. Il appartient seul à l'espèce d'amour qui peut recevoir le nom de charité. Qu'on ne croit pas que cet amour puisse seulement avoir pour objet un pays malheureux. Le bonheur est un objet pour la compassion au même titre que le malheur, parce qu'il est terrestre, c'est-à-dire incomplet, fragile et passager. Au reste, il y a malheureusement toujours dans la vie d'un pays un certain degré de malheur. Qu'on ne croit pas non plus qu'un tel amour risquerait d'ignorer ou de négliger ce qu'il y a de grandeur authentique et pure dans le passé, le présent et les aspirations de la France. Bien au contraire, la compassion est d'autant plus tendre, d'autant plus poignante, qu'on discerne davantage de bien dans l'être qui en est l'objet, et elle dispose à discerner le bien. Quand un chrétien se représente le Christ en croix, la compassion en lui n'est pas diminuée par la pensée de la perfection, ni inversement. Mais d'un autre côté, un tel amour peut avoir les yeux ouverts sur les injustices, les cruautés, les erreurs, les mensonges, les crimes, les hontes, contenues dans le passé, le présent et les appétits du pays, sans dissimulation ni réticence, et sans en être diminué. Il en est rendu seulement plus douloureux. Pour la compassion, le crime lui-même est une raison non pas de s'éloigner, mais de s'approcher pour partager non pas la culpabilité, mais la honte. Les crimes des hommes n'ont pas diminué la compassion du Christ. Ainsi, la compassion a les yeux ouverts sur le bien et le mal, et trouve dans l'un et l'autre des raisons d'aimer. C'est le seul amour, ici-bas, qui soit vrai et juste. C'est en ce moment le seul amour qui convienne aux Français. Si les événements que nous venons de traverser ne suffisent pas à nous avertir d'avoir à changer notre manière d'aimer la patrie, quelle leçon peut nous instruire? Que peut-il y avoir de plus pour éveiller l'attention qu'un coup de massue sur la tête? La compassion pour la patrie est le seul sentiment qui ne sonne pas faux en ce moment, qui convienne à l'état où se trouvent les âmes et la chair des Français, qui est à la fois l'humilité et la dignité l'une et l'autre convenables dans le malheur, et aussi la simplicité que le malheur exige par-dessus tout. Évoquer en ce moment la grandeur historique de la France, ses gloires passées et futures, l'éclat dont son existence a été entourée, cela n'est pas possible sans une espèce de raidissement intérieur qui donne au ton quelque chose de forcé. Rien qui ressemble à de l'orgueil ne peut convenir aux malheureux. Pour les Français qui souffrent, une telle évocation entre dans la catégorie des compensations. La recherche des compensations dans le malheur est un mal. Si cette évocation est trop souvent répétée, si elle est fournie comme unique source de réconfort, elle peut faire un mal illimité. Les Français sont affamés de grandeur. Mais aux malheureux, ce n'est pas de la grandeur romaine qu'il faut. Ou cela leur semble de la dérision, ou cela leur empoisonne l'âme, comme ce fut le cas en Allemagne. La compassion pour la France n'est pas une compensation, mais une spiritualisation des souffrances subies. Elle peut transfigurer même les souffrances les plus charnelles, le froid, la faim. Celui qui a froid et faim, et qui est tenté d'avoir pitié de soi-même, peut, au lieu de cela, à travers sa propre chair contractée, diriger sa pitié vers la France. Le froid et la faim même font alors entrer l'amour de la France par la chair jusqu'au fond de l'âme. Et cette compassion peut, sans obstacle, franchir les frontières, s'étendre à tous les pays malheureux, à tous les pays sans exception, car toutes les populations humaines sont soumises aux misères de notre condition. Alors que l'orgueil de la grandeur nationale est par nature exclusif, non transposable. La compassion est universelle par nature. Elle est seulement plus virtuelle pour les choses lointaines et étrangères, plus réelle, plus charnelle, plus chargée de sang, de larmes et d'énergie efficace pour les choses proches. L'orgueil national est loin de la vie quotidienne. En France, il ne peut trouver d'expression que dans la résistance. Mais beaucoup, ou bien n'ont pas l'occasion de prendre effectivement part à la résistance, ou n'y consacrent pas tout leur temps. La compassion pour la France est un mobile, au moins aussi énergique, pour l'action de résistance. Mais de plus, elle peut trouver une expression quotidienne, ininterrompue, en toute espèce d'occasion, même les plus ordinaires, par un accent de fraternité dans les relations entre Français. La fraternité germe aisément dans la compassion pour un malheur qui, tout en infligeant à chacun sa part de souffrance, met en péril quelque chose de bien plus précieux que le bien-être de chacun. L'orgueil national, soit dans la prospérité, soit dans le malheur, est incapable de susciter une fraternité réelle, chaleureuse. Il n'y en avait pas chez les Romains. Ils ignoraient les sentiments vraiment tendres.